France Musique.
Que c'est donc bête que c'est idiot de rire comme ça.
Anne des Vins, musique folle, Priscille Lafitte, France Musique.
Bienvenue dans la grande revue des années 20. Aujourd'hui, avant-dernier épisode de cette série consacrée à cette décennie exubérante, nous allons parcourir l'Europe à toute vapeur, des Roaring Twenties à Londres, au Golden Age à Berlin, faisant un détour par Athènes, Vienne et Salzbourg. C'est parti pour le 7e épisode des années 20, musique folle. Septembre 1918. La guerre touche à sa fin et le soleil réchauffe doucement la ville de Londres. La capitale britannique jouit de sa domination sans accroc sur le globe. L'Empire est à son apogée et Londres règne sur un quart de la population mondiale, de la Nouvelle-Guinée au Nigeria, en passant par l'Inde et le Kenya. Gustav Holst enseigne alors à l'école pour filles de St. Paul, dans le quartier populaire de Londres, à Hammersmith. Le compositeur s'attelle depuis le début de la guerre à l'écriture de 7 tableaux, chacun représentant une planète, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il cherche à présent un orchestre et un public pour jouer cette composition ambitieuse basée sur sa toccade pour l'astrologie. En attendant que cette œuvre soit créée, Holst veut participer à l'effort de guerre. Il se porte volontaire pour rejoindre la section musicale du département d'éducation du Young Men's Christian Association, le YMCA, qui cherche des candidats pour travailler avec les troupes britanniques stationnées en Europe et attendent la démobilisation. La candidature de Holst est retenue et il part pour la base de YMCA à Thessalonique, en Grèce. Mais avant son voyage, Holst se voit offrir la possibilité de monter les planètes. Le chef d'orchestre Balfour Gardiner lui fait un cadeau de départ. Il met à disposition le Queen's Hall avec son orchestre au complet un dimanche matin. Il y a un gros travail pour tout préparer. Les filles de St. Paul aident à copier les parties orchestrales. Elles apprennent les chants à la dernière minute. La représentation a lieu le 29 septembre 1918 devant un public invité comprenant la plupart des musiciens professionnels de Londres. La fille du compositeur, Imogen Holst, racontera que les 200 à 300 amis et musiciens qui étaient venus écouter trouvèrent les clameurs de Mars presque insupportables après 4 années d'une guerre qui se poursuivait. Mais c'est la fin de Neptune qui fut inoubliable, avec son cœur de voix féminine s'évanouissant au loin, jusqu'à ce que l'imagination ne pût faire la différence entre le son et le silence. Gustav Holst rejoint finalement le YMCA de Thessalonique et il visite la Grèce. Tout le séjour est une révélation, une inspiration sur lesquelles je peine à mettre des mots, écrit-il, que ce soit le vin, le fromage de chèvre, le miel. Manolis Kalomiris est alors la figure tutélaire de la musique savante d'Athènes, mais c'est surtout le rebetiko qui connaît ses plus grandes heures. Le rebetiko est un mode de vie, celui des bandits au grand cœur et des anarchistes. C'est la musique des bas-fonds d'Athènes. Le rebet dérive du mot rebelle et le terme de rebetiko apparaît pour la première fois sur les étiquettes des disques de 78 tours en 1912.
Πάψε πλέον από εμέν καλέ κι ελπίδα πια να μην έχεις. Πάψε πλέον από εμέν κι ελπίδα πια να μην έχεις. Και με θανάζια που κρατάς βαριστισμένο Θα γίνω, μα δε σ' αφήνω, για θα με πάρεις, για θα χαθώ. Όλα τα μικρά κορίτσια. Τα μαλλιά του είχε πάψει να περνάει για γαμπρός. Στο σκουπό ξύλο τον πιάσαν και τον βάλανε μπρος. Ξύσου γέρο, άιντε ξύσου, με το χέρι το δεξί σου. Ξύσου γέρο, τον τσακώσαν τα μορδάκια να μην ήταν κοριτσάκια και τον πήραν ρε φαίνε για σου γέρο που νενέ. Τα μαλλιά του είχε πάψει να περνάει για γαμπρός. Ξύσου γέρο, άιντε ξύσου, με το χέρι το δεξί σου. Ξύσου γέρο, που είναι ξεχουδιάρι και τρελέ. Γέρο, τροπή, ρε, ο γέρος τροπηρέ, ο γέρος δεν φέρνει. Φύγε γέρο ξεκουτιάρι, άδειασε μας τη γωνιά, θα μας βάλει σε μπελά. Τα μαλλιά του είχε πάψει να περνάει για γαμπρός, στο σκουπό ξύλο το πιάσαν και το βάλανε μπρος. Ξύσου γέρο, άιντε ξύσου, με το γέρι το δεξί σου. Θα σε δέσουν στο παθνί, θα σε κλείσουν στο δαφνί. Ξύσου γέρο, να μου κάνει.
À Athènes, les joueurs de rebetiko, les rebettes, aiment se retrouver dans des tavernes qu'ils nomment des tekés ou des dounia. Ils boivent, dansent, chantent et fument le hashish jusqu'à connaître la mastoura, l'ivresse que procure la plante dont il est si souvent question dans les chansons. La solitude, l'ennui, le désespoir, l'exil et la mort sont aussi des sources d'inspiration pour le rebetiko. On est loin, si loin, du patriotisme qui s'exprime pendant la guerre en Grande-Bretagne comme dans l'Empire britannique, quand retentit presque tous les soirs le chant « Keep the home fires burning »,« Gardons nos foyers au chaud », jusqu'à ce que nos boys reviennent à la maison. Make it a sing this tune.
dir honor fados un non le for no caran sanno freedom to a tyrant the oppressed bend and a noble heart must answer to the secret call of the friend.
Officieux de la Première Guerre mondiale, composé par Ivor Novello, également chanteur, acteur de films muets, et dont l'appartement au-dessus du Strand Theatre est l'endroit le plus couru et branché du Londres des années 20. Les Boys finissent par rentrer au pays et Gustav Holst revient lui aussi à Londres en juin 1919 pour retrouver l'école de filles de St. Paul. Il écrit pour chœur, tout comme Ralph Vaughan Williams. La tradition chorale est telle en Grande-Bretagne que le premier ensemble à être recruté à la BBC en 1924 est le chœur des BBC Singers, alors appelé les Wireless Singers, les chanteurs sans fil, fondé quelques années avant l'orchestre symphonique de la BBC.
Of a downhearted friend, and they played there as part of the blues. From the whippoorwill out on a hill, they took a new note, pushed it through a hole till it was worn into a blue note. And then they nursed it, rehearsed it, and gave out the news that the Southland gave birth to the blue, blue.
Et puis, les Londoniens sont friands de jazz, apportés par Will Marion Cook, puis par Paul Whiteman. Ils accueillent avec enthousiasme les comédies musicales de Broadway et la star américaine Fred Astaire. C'est dans ce contexte que débarque, à Londres, la troupe du Showboat, premier spectacle à aborder la question de la discrimination raciale. Le personnage de Joe, le docker qui chante « Old Man River », a été spécifiquement écrit pour un artiste noir déjà connu à New York, Paul Robeson, comédien du cinéma muet, figure du Harlem Renaissance, doté d'une magnifique voix de baryton basse. Il s'est fait un nom en incarnant des rôles noirs, auparavant dévolus à des artistes blancs grimés en blackface. Le chanteur profite de la tournée de Showboat à Londres pour s'établir dans la capitale britannique. Là, Paul Robeson peut assumer sa sympathie avec l'idéologie communiste et faire de cet Old Man River un champ de lutte sociale et raciale.
Dark is our wake on the Mississippi, dark is our wake while the white folks play, pulling them boats from the dawn to sunset, getting no rest till the judgment day.
Don't look up and don't look down, you're bound to play the white folks round, bend your knees and bow your head, and pull that rope until you're
Let me go away from the Mississippi, let me go away from the white man boss. Show me that stream called the River Jordan, That's the old stream that I long to cross. You get a little drunk and you land in jail.
I is weary and sick of crying. I'm tired of living and scared of dying. But old man River, he just keeps rolling.
Pendant que l'Empire britannique domine une large partie du monde, l'Empire allemand, lui, s'effondre. Marqué par la défaite de 1918 et par la Révolution de novembre, Berlin est alors le parfait miroir d'une Allemagne incapable de retrouver la stabilité perdue, secouée par des crises à répétition. Insurrection communiste, putsch d'extrême droite, assassinat politique, inflation galopante. Après le tournant de 1924, le climat tend à s'apaiser dans la République de Weimar. C'est seulement alors que Berlin, comme le reste de l'Allemagne, entre dans les années dorées, les Goldene Jahre. En 1918, l'écrivain Karl Zuckmayer, âgé de 20 ans, décrète « Celui qui conquiert Berlin détient les clés du monde ». S'il fallait définir d'un mot la culture berlinoise de ces années, ce serait la modernité. Le mouvement architectural du Bauhaus, les avant-gardismes, le surréalisme, le dadaïsme prospèrent. La culture de masse triomphe. Berlin compte pas moins de 40 théâtres. Il y a le Großes Schauspielhaus, construit en 1919 par Hans Pülzig, dans le pur style de l'architecture expressionniste. La salle, en forme de caverne, est surmontée d'une vaste coupole où pendent des stalactites et elle peut accueillir quelque 3500 personnes. Ce théâtre est lié au grand metteur en scène Max Reinhardt, qui s'est illustré à Vienne avant de s'établir à Berlin. Max Reinhardt a posé les fondations du Festival de Salzbourg avec l'écrivain Hugo von Hofmannsthal et le compositeur Richard Strauss. La pièce « Jedermann » d'Hofmannsthal est donnée le 22 août 1920 sur la place devant la cathédrale. S'y ajoutent bien vite des concerts et des opéras de Strauss, bien sûr, mais surtout de Mozart et puis de Verdi.
Sein, diese Glieder werden
Un des vins musique folle, Priscille Lafitte, France Musique, c'est l'été.
À Berlin, Max Reinhardt a ouvert une école d'art dramatique au Deutsches Theater, dans lequel beaucoup de jeunes talents font leurs premières armes, comme Ernst Lubitsch. C'est devant Max Reinhardt que Marlène Dietrich passe une audition. Elle aurait voulu être violoniste soliste, elle a même pris des cours avec Karl Flesch, mais elle préfère finalement être comédienne et présente au Deutsches Theater un extrait du poème de Hugo von Hofmannsthal, Der Tod und der Tod, Le fou et la mort. Ce serait Max Reinhardt lui-même qui l'aurait recalé. À défaut du maître, Marlène Dietrich prend des cours avec l'un de ses adjoints, Berthold Held, et ses cours lui ouvrent les portes de quelques premiers rôles. Elle est d'abord figurante. Au mieux n'a-t-elle que quelques répliques à dire. Elle peut même, certains soirs, apparaître dans plusieurs théâtres. Jouer le rôle d'une servante au premier acte d'une pièce, se rendre ensuite en métro ou en bus dans un autre lieu où elle est matrone au deuxième acte, et puis terminer la soirée comme prostituée au troisième acte d'une troisième pièce. Elle enchaîne ainsi les petits rôles, pas moins d'une vingtaine, jusqu'en 1928, avant que sa carrière éclose dans les revues et surtout au cinéma. Berlin est alors au cœur de l'industrie cinématographique allemande. À proximité de l'église du souvenir, sur le Kurfürstendamm, de superbes complexes de cinéma commencent, vers 1925, à faire appel à de grands orchestres pour le cinéma muet, avec pas moins de 60 musiciens. C'est d'ailleurs dans ces orchestres que Marlène Dietrich touche ses tout premiers cachets. Les compagnies de cinéma livrent les partitions avec la copie du film. La décennie voit également le lancement de la radio, autre vecteur par excellence de la culture de masse. Son succès est foudroyant. La première radio, la Funkstunde AG, commence à diffuser le 29 octobre 1923. Paul Hindemith établit un centre d'essai radiophonique qui permet de tester des nouveaux instruments, comme le piano à quart de ton d'Alois Haba ou le trottonium d'Oscar Sala, ainsi qu'un style de composition spécifiquement destiné à la radio. Hindemith compose ainsi cette pièce, Sabinchen.
Sabinchen! Sabinchen, aufstehen, bis 7 Uhr. Aufstehen, aufstehen!
Sie diente treu und friedlich immer mein ihrer Dienst erschafft.
Sabinchen!
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 Holen Sie mir mal die Stiefel!
Sieben Sie mir mal die Zeitung!
In den Keller.
Gehen Sie mal auf den Boden.
Setzen Sie mich mal aufs Schaukelpferd.
Sofort, sofort.
Was haben Sie denn da gemacht?
Was ist denn das für ein Unsinn?
Das ist ein Blödsinn von Ihnen.
Ach Gott, ach Gott.
Wo haben Sie denn den Verstand?
Wo sind denn Ihre Ohren?
Wozu bezahlen wir Sie denn?
30 Mark im Monat und freie Station. Stiefel,
Zeichen,
Stiefel,
Zeichen, Stiefel, Zeichen, Stiefel, Zeichen, Stiefel, Zeichen, Stiefel,
Mama, wer ist denn? Kohlrabi, Gurken, frische Brezeln.
Schokolade.
Bahnsteig 2.
12:05 Uhr.
Anschlusszug.
Zweiter Klasse.
Verspätung.
Direkt nach Paris.
Ohne Zuschlag.
Für Raucher.
Einsteigen.
Ach, entschuldigen Sie, ich bin fremd hier. Wo ist hier die Schuhmacherherberge? Ich bin aus Troy in Brizen und bin fremd hier.
À Berlin, la vie de concert est brillante. L'Orchestre philharmonique de Berlin, récemment constitué, est dirigé par Wilhelm Furtwängler, chef permanent depuis 1922. Les concerts des Berliners se donnent alors dans la vieille philharmonie de la rue Benburg, près de la Potsdamer Platz. Berlin est un carrefour, un passage obligé pour les virtuoses et les créateurs du début du XXe siècle. Le Viennois Arnold Schönberg y a créé son Pierrot Lunaire en 1912. La claviériste polonaise Wanda Landowska obtient le poste de professeur de clavecin à la Hochschule für Musik de Berlin, dirigeant ainsi une des premières classes au monde dédiées à cet instrument et à la musique ancienne à cette époque. Vladimir Horowitz, tout juste émigré de Russie, séjourne dans la capitale allemande et y donne ses premiers concerts européens. Nombreux sont les musiciens américains et européens à converger en Europe centrale, y compris Maurice Ravel, qui viendra y diriger son concerto en sol avec Marguerite Long au piano au début des années 30, avant de se rendre à Vienne, où réside le pianiste Paul Wittgenstein, commanditaire du concerto pour la main gauche. Mais ce qui agite le Berlin de ces années 20, c'est une esthétique, une philosophie artistique. C'est la Neue Sachlichkeit, la nouvelle objectivité. On se passionne pour la pièce scénique de chambre, pour le théâtre d'actualité, pour le Zeitoper. C'est la mode des formes courtes réalisées par Pauline de Miet ou Kurt Weill dans ce Royal Palace. Le jeune Kurt Weill a débarqué de Dessau en 1918. Il est le fils d'un chantre de la synagogue locale. Il fait partie de cette multitude de jeunes artistes et intellectuels qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, ont rejoint la métropole culturelle berlinoise. Kurt Weill s'inscrit au Conservatoire de Berlin, la Berlin Hochschule für Musik, là où enseigne Wanda Landowska. Kurt Weill suit les cours de composition de Ferruccio Busoni, musicien originaire d'Italie, établi à Berlin, pacifiste convaincu et considéré par ses étudiants comme, je cite, le dernier homme de la Renaissance. Busoni familiarise Kurt Weill avec les œuvres de Schoenberg et de Stravinsky. Busoni est surtout un ardent défenseur du lyrique. Il écrit un livre sur les possibilités de l'opéra, 1922, où il déplore que cette forme musicale souffre d'un manque de considération par rapport au symphonique. La vie musicale berlinoise va embrasser cet amour pour l'opéra, mais Busoni n'aura pas le temps de voir triompher cette nouvelle esthétique. Son opéra Dr. Faust est créé à titre posthume à Dresde le 21 mai 1925.
Thank you. werden sie ein. Mein Wein ist gut, mein Bier ist wahr, mein Töchterlein liegt auf der... Verdammt! Oh, Margrethe! Komm, setz dich her, Margrethe!
L'ouvrage qui ébranle alors les certitudes musicales berlinoises, c'est surtout celui d'un jeune Autrichien, disciple d'Arnold Schönberg et adepte de la nouvelle école de Vienne, Alban Berg. Son premier opéra, Wozzeck, est donné le 14 décembre 1925 au Staatsoper de Berlin. La création est pour le moins laborieuse. La carrière mouvementée de Wozzeck commence dès l'apparition de la première mouture chant et piano. La revue Allgemeine Musikzeitung émet une critique défavorable. Et puis, ce sont des mois et des mois de répétitions fastidieuses. Le chef, Erich Kleiber, organise plusieurs dizaines de répétitions, précisément 137 répétitions en tout, pour surmonter les difficultés techniques de l'œuvre. Pourtant, quelques jours après la création, Alban Berg loue cette expérience enrichissante vécue au Staatsoper et affirme s'être confronté à des musiciens, techniciens et chanteurs animés de la meilleure volonté du monde. Grâce au travail d'Erich Kleiber, la représentation est vécue comme un véritable miracle sonore. On lui sait gré d'avoir tenté et maîtrisé l'irréalisable. En dépit des pressions de la presse nationaliste, l'ouvrage est maintenu au programme de l'Opéra National. Il sera joué dans ce même théâtre 21 fois jusqu'en
1932. Ich hab's daran, aber ich Pendant qu'Alban Berg s'attelle à l'écriture de Loulou, Paul Hindemith compose son opéra Cardillac. Et partout en Europe de l'Est, l'opéra vit des heures fastes. Le nez de Shostakovich est créé à Leningrad. La petite renarde rusée et l'affaire Makropoulos de Leos Janáček sont mises en scène. Et dans le même temps, à la Scala de Milan, Turandot, dernier opéra inachevé de Puccini, est créé sous la baguette d'Arturo Toscanini en avril 1926. L'ouvrage lyrique qui va marquer au fer rouge ces années berlinoises, c'est « Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni », signé Kurt Weill et Bertolt Brecht. Mais pour comprendre la déflagration qu'opère cette création, il faut d'abord s'attarder encore sur le contexte berlinois, ses cabarets, ses revues et l'influence américaine. En 1926, Josephine Baker arrive à Berlin. Celle qui a imposé une nouvelle esthétique à Paris, on en parlait la semaine dernière, suscite à Berlin des réactions de haine ou d'admiration. Aux yeux des nationalistes, elle est un facteur majeur du déclin de la culture germanique. Elle reste d'ailleurs peu de temps à Berlin pendant cette tournée européenne avant de s'installer à Paris, mais l'artiste concentre sur elle tous les enjeux du débat sur la culture afro-américaine et le jazz. Sa féminité exacerbe d'autant plus les tensions. C'est dans ce contexte que Sigmund Freud utilise en 1926 la fameuse expression de « dark continent », le continent noir, pour caractériser la sexualité féminine.
Es gibt ka Musi ewig und ka Glück vor ewig, so es halt im Leben und drum kann's auch heben. Elle wird lieb net geben. Es kommt vor alle schön, einmal die Endstation, man ander als sich muss sie, wie sie Lieblingsmusik per Saison. Sag beim Abschied leise Servus, nicht leb wohl und nicht adieu. Diese Worte tun nur wie doch das kleine Wort Servus ist eine Liebe, letzte Grüß, wenn mein Abschied nehmen muss. Skip ja, hau ja rein, ein neuer Wein, ein neuer Liebelein. Sag beim Abschied leise Servus, denn gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es doch schön. Denn gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es doch schön.
On vient d'entendre Josephine Baker dans une chanson, un Schlager, comme disent les Allemands, datant du début des années 30. C'est un des rares enregistrements de l'américaine chantant dans la langue de Goethe, avec un timbre inhabituellement sombre et grave. Comme Londres et Paris, Berlin est très réceptive à la nouvelle culture américaine. Quand en mai 1927, l'aviateur Charles Lindbergh traverse l'Atlantique et rallie New York à Paris en 33 heures et 30 minutes à bord de son avion Spirit of St. Louis, Kurt Weill, Paul Hindemith et Bertolt Brecht captent l'événement et en créent une pièce radiophonique sous forme de cantate franco-germano-anglophone.
Lindbergh spricht mit seinem Motor.
Lindbergh speaks to his motor.
Dialogue de Lindbergh avec son moteur.
Jetzt ist es nicht mehr weit. Jetzt müssen wir uns noch zusammennehmen, wir zwei. Hast du genug Öl? Meinst du, das Benzin reicht dir aus? Hast du kühl genug? Geht es dir gut? das Eis ist schon ganz weg, das dich bedrückt hat, der Nebel, das ist meine Sache, du machst deine Arbeit. Du musst nur laufen.
Unweit Schottlands wird Lindbergh von Fischern gesichtet.
At last, Lindbergh is sighted by some fishermen off the coast of Scotland.
Enfin, non loin de l'Écosse, Lindbergh est aperçu par des pêcheurs.
Da ruft etwas, Horch.
Was soll da rufen?
Horch, das Rattern in der Luft.
Was soll da rattern?
Schau, dort fliegt ein solches Ding, das ist ein Flugzeug.
Wie soll da ein Flugzeug sein? Niemals kann ein solches Ding aus einem Fetzen reisen übers Wasser. Nicht mal ein Narr könnte sich hineinsetzen. Es will doch einfach ins Wasser. Und der Wind würde es einschränken. Und welcher Mensch hielt er so lange Zeit am Steuer aus?
So schau doch wenigstens.
Und da schauen, wo es doch niemand sein kann.
Jetzt ist es fort, ich weiß auch nicht, wie es sein kann, aber es war eben.
Auf dem Flugplatz Le Bourget bei Paris erwartet in der Nacht des 21. Mai 1927 abends 10 Uhr eine riesige Menge den amerikanischen Flieger.
On the night of the 21st of May 1927, an enormous crowd gathered on the aerodrome Le Bourget near Paris is awaiting the arrival of the American airmen.
À l'aérodrome du Bourget, près de Paris, dans la nuit du 21 mai 1927, à 22 heures, une foule immense attend l'aviateur américain.
Des vins musique folle, Priscille Lafitte, France Musique, c'est l'été.
Le rythme est devenu la référence moderne, illustrée par la machine, le sport et la danse. L'autobiographie de Henry Ford est devenue un best-seller en Allemagne. Les recueils de chants sportifs sont plus que jamais dans l'air du temps, on les réimprime. En 1927, au Staatsoper, un saxophoniste noir devient le héros d'un opéra d'Ernst Krenek, Johnny spielt auf. Johnny mène la danse. C'est une musique inspirée du jazz et écrite par un Allemand. Le personnage de Johnny est noir de peau et incarné par un acteur blanc grimé en blackface. L'opéra rencontre un très grand succès lors de sa création et sera représenté plus de 400 fois sur 70 scènes d'Allemagne et d'Autriche jusqu'en 1930. George Gershwin assistera en 1928 à une représentation de Johnny spielt auf à Vienne. Le choix d'un héros noir et la mise en valeur du jazz attirent les foudres des conservateurs et des nazis avant même leur accession au pouvoir. Il y a dans l'air une nouvelle objectivité, il y a dans l'air quelque chose de piquant, c'est dans l'air. Il y a dans l'air quelque chose de fou, il y a dans l'air quelque chose d'hypnotique, et c'est dans l'air, ça ne sort plus de l'air. C'est ce que chante Marlène Dietrich dans une revue « Es liegt in der Luft » montée à la Comédie, une autre salle de l'Empire Max Reinhardt sur le cours Fürstendamm, le centre de la vie nocturne du Berlin des années 20. Car oui, Marlène Dietrich a appris à chanter. La revuiste Claire Waldorf l'a initiée au chant et l'a même emmenée fréquenter le bar L'Eldorado, rendez-vous attitré des homosexuels, où les deux femmes apparaissent volontiers en smoking, une tenue bientôt emblématique de Marlène. Le clou de cette revue est le duo qu'elle forme avec Margot Lyon, une comédienne française parfaitement intégrée dans le milieu berlinois. La chanson se nomme « Die beste Freundin », les meilleurs amis, chantée avec un bouquet de violettes à la main.
Denn die beste Freundin, mit der Freundin, um Parteien zu kaufen, um Parteien zu kaufen und sich auszulaufen. Durch die Straßen latschen, um sich auszuquatschen. Sprich die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste Freundin.
Oh, meine beste Freundin,
oh, meine schöne Freundin, oh, meine treue Freundin, oh, meine süße Freundin. Ist die beste Freundin mit der besten Freundin. Sprich die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste Freundin.
Ja, was sagt denn die beste Freundin? Sag doch mal was zu mir, was dir so gerade einfällt.
Ich kann dir nur eins sagen, wenn ich dich nicht hätte. Wir vertragen uns beide so gut.
Ja, wir vertragen uns so furchtbar gut.
Dass wir uns beide gut zusammen vertragen, es ist kaum noch abzuhalten, wie gut wir uns beide vertragen.
Nur mit einem vertrage ich mich noch so gut.
Mit meinem süßen kleinen Mann.
Ja, mit deinem süßen kleinen Mann.
Ja, mein Mann, wie ist ein Mann, so ein Mann, wie mein Mann, wie der Mann. Von der Frau, wie der Mann, von der Frau. Früher gab's den Hausfreund, doch er schwand dahin. Heute statt des Hausfreund gibt die Hausfreundin.
Dein kleiner Mann ist aber auch gerne.
So?
Ja.
Warum?
Ich finde.
Wieso?
Warum?
Wieso findest du?
Ach, da ist aber ein Mann.
Das passt mir aber nicht.
Hallo.
Nanu?
Du hast mich mit ihr betrogen.
Hast du mich mit ihr betrogen?
Und du hast mich mit ihr betrogen.
Weil du mich mit ihr betrügst.
Was sind denn das für verwickelte Familienverhältnisse? Wollen wir uns nicht lieber vertragen?
Ja, wir wollen uns lieber vertragen.
Die dumme, dumme Liebe.
Mit der besten Freundin, um was ein zu kaufen, um was ein zu kaufen, um sich auszulaufen. Durch die Straßen latschen, um sich auszuquatschen. Sprich die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste Freundin.
Oh, meine beste Freundin,
oh, meine schöne Freundin, oh, meine treue Freundin. Oh, meine süße Freundin,
ist
die beste Freundin.
Warte,
mit der besten Freundin.
Warte,
sprich die beste Freundin zu der besten Freundin. Meine beste
Mais le rôle emblématique de Marlène Dietrich lui est offert par le cinéma. Elle est Lola Lola dans le cabaret L'Ange Bleu qui donne son nom au film de Joseph von Sternberg. De la tête aux pieds, je suis faite pour l'amour, chante Dietrich, accompagnée d'un big band berlinois, les Weintraub Syncopators, dirigé du piano par Friedrich Holländer.
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi. Liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt. Und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was bebt in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, Sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halb verstehen. Es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
L'auteur de cette chanson, Friedrich Holländer, domine le milieu du cabaret depuis le début des années 20. Le cabaret est un genre de spectacle à la fois littéraire et musical, ouvert aux questions politiques brûlantes de l'époque. Expressionnisme théâtral, goût du morbide, érotisme de pacotille, communisme, anarchisme, antisémitisme ou antinazisme, tout, absolument tout, y trouve son moyen d'expression. Dans les cabarets berlinois se croisent Franz Wedekind, Bertolt Brecht, Max Reinhardt. On joue des pièces de théâtre d'avant-garde. On y représente la misère qui sévit à Berlin. C'est aussi un endroit où l'on trouve refuge pour oublier les affres de l'après-guerre. Celui qui incarne cet esprit interlope du cabaret berlinois, c'est Kurt Weill. Il faut voir la violence des réactions que va susciter la création de Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, grandeur et décadence de la ville de Mahagoni.
Rasch wuchs in den nächsten Wochen eine Stadt auf und die ersten Haifische siedelten sich in ihr an.
Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't us cry, oh, don't us cry. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Goodbye, we've lost our naughty boy. Oh, don't us cry. Oh, don't us cry. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have a boy, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, we now little dollar. Oh, don't us cry. Oh, don't us cry. For we must find the next little dollar. For if we don't find the next little dollar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, our good old mama. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye.
Nul autre opéra que Ma Agonie aura suscité un tel scandale en Allemagne durant la première moitié du XXe siècle. Une grande partie des commentaires est consacrée au contenu du livret et à ses implications politiques. Mais la radicalité de la forme, le jeu constant entre la tradition opératique et la parodie, trouble les esprits. C'est l'embûche tendue par le librettiste Bertolt Brecht et le compositeur Kurt Weill. L'opéra de Katsu avait déjà mis le public au parfum, mais Ma Agonie ne fait plus aucune concession. Kurt Weill place son style musical en interaction profonde avec la poésie réaliste de Brecht. Ma Agonie provoque le spectateur à tous les niveaux. Il sonde ce qui lui reste de bonne conscience. Il l'entraîne sur des fausses pistes. Il l'interroge sur la légitimité de l'art.
Züge kommen nicht vorbei.
Liegt die Goldstadt Magoni.
Dort wurde gestern erst nach euch gefragt.
Zu unserer Zeit gibt es in den großen Städten viele, denen es nicht mehr gefällt. Solche gehen nach Magoni, der Goldstadt.
Die Getränke sind billig.
Hier in euren Städten ist der Lärm zu groß. Nichts als Unruhe und Zwietracht
und nichts, woran man sich halten kann,
weil alles so schlecht ist.
Doch sitzt ihr einmal bei den Magami-Leuten, nun so raucht ihr auch, und aus euren gelben Häuten steigt Rauch. Himmel wie Pergament, goldner Tabak, wenn San Francisco brennt, was ihr dran Gutes nennt, sehet das Gitterbett in einen Sack. Himmel, Himmel, Himmel,
und nicht stecken,
wenn San Francisco
unter ihnen sind Gossen,
ihr dran Gutes nennt, sehet das Gitterbett
in einen Sack.
Wir sind noch drin, wir haben nichts genossen, wir vergehen rasch und langsam vergehen sie auch.
Drum auf nach Mahagoni, dort wurde gestern erst nach euch gefragt.
Kurt Weill devra prendre le chemin de l'exil dès l'arrivée d'Adolf Hitler à la chancellerie en janvier 1933. Son œuvre est visée par un auto-da-fé en juin de cette même année. Ernst Krenek figure lui aussi dans la liste des musiques dégénérées établies par les nazis. Max Reinhardt s'exile, Marlène Dietrich et Bertolt Brecht aussi. Ils sont vite rejoints à Paris, à Londres ou le plus souvent aux États-Unis par des compositeurs, musiciens, artistes et intellectuels qui ont fui Vienne. Vienne et sa nouvelle école, Schönberg, Berg et Webern, trois compositeurs qui ont fait table rase de la musique classique tonale, sont aussi dans le viseur du nazisme. À la fin des années 20, Schönberg compose « Moïse et Aaron » où il met en scène le destin du peuple juif sortant d'Égypte. Par cette allégorie biblique, c'est à l'évidence l'emprise du nazisme que Schönberg pressent et qu'il voit arriver depuis une décennie. Au début des années 30, Arnold Schönberg doit arrêter ses activités, notamment sa classe de composition à l'Académie prussienne des arts. Sa musique est considérée comme dégénérée. Elle fera l'objet d'une section entière dans l'exposition d'Entartete Musik en 1938. Schönberg prend la fuite dès 1933, rejoint Paris puis les États-Unis, tout comme le violoniste Fritz Kreisler et tant d'autres Viennois. L'ébullition intellectuelle à Vienne et à Berlin, l'ardeur des débats esthétiques, mettront du temps à se diffuser en Europe. L'influence de Schönberg, tout comme celle de Bartok ou de Janáček, n'imprégnera les esprits que plus tard, à Paris notamment. Poulenc et Cocteau ont été témoins de cette évolution.
Notre génération, de tout au moins Millot, Auric et moi, nous connaissions parfaitement Schönberg, n'est-ce pas? Et en 1920, j'ai fait une espèce de pèlerinage à Vienne, chez Schönberg, avec Darius Milhaud, n'est-ce pas? Il nous a toujours intéressés passionnément, mais pour nous, nous n'en avions pas besoin, vous comprenez? Et je comprends tout à fait bien que la jeune génération se soit jetée dessus. Notez qu'ils auraient dû... Schönberg, si Schönberg, Ebert et Webern avaient été plus connus à Paris entre les deux guerres, ils n'auraient pas influencé à ce point la génération d'après-guerre. Mais mettez-vous cela dans la tête, que
Après la guerre de 14, Stravinsky continuait à être un soleil qui vous aveuglait. C'était comme des phares. Et on ne voyait rien d'autre. Je me souviens que quand Bartok est venu jouer son concerto de piano, je pense peut-être, je ne crois pas vous dire une bêtise, en 1923, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est passé complètement inaperçu. Bartok, Schoenberg était un peu connu, Bartok à peine. Et alors, les jeunes musiciens étant lassés de Stravinsky, vous bien le dire, ce qui est très normal, ils en ont été lassés comme nous sommes lassés de Debussy et de Ravel. Eh bien, après, pendant l'occupation, tout à coup, on s'est mis à jouer de Schoenberg, Berg, tout ça. Ils ont été secoués par quelque chose de nouveau.
Et puis, Francis, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que Satie était génial.
Oui.
Il n'y avait pas qu'une tendance, il n'y avait pas qu'une recherche. Son orifice est peut-être très mince, mais quand on y colle son œil, c'est énorme, n'est-ce
pas ? C'est extraordinaire, oui.
Alors, c'est tout de même très important de dire que Satie était génial.
C'est ça.
Et que Schoenberg est aussi un homme génial.
Demain, dernier volet de cette grande revue des années 20, nous prendrons des sentiers de traverse de l'Amérique du Sud jusqu'en Afrique du Nord, sur les traces de Heitor Villa-Lobos, Camille Saint-Saëns et Oum Kalsoum. À la réalisation, Catherine Pralegal, prise de son Alexandre Billard et Morgane Danon, attachée de production Marie Ferdinand. Tout de suite, Guitare Guitare de Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.